Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois d'octobre pour la promotion et la défense des droits humains. Et pour l'animer ce soir, bah, c'est la fine équipe, je dirais, autour du micro.
Le trio infernal.
Le trio infernal, c'est ça. Donc, il y a avec moi, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Voilà. Donc, bon, on est un tout petit peu en retard. On a eu un petit souci technique
et
pendant
un
une minute.
Il y a un bouton qui ne voulait pas.
Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc, pour commencer l'émission, on va quand même vous dire quelques mots, bien qu'on a décidé de consacrer l'émission à d'autres sujets que celui dont vous entendez parler à longueur de journée sur, au niveau des informations, c'est-à-dire le conflit à Gaza et entre Israël et la Palestine. Donc, on va quand même vous en parler en début d'émission, et puis après, on va vous parler de beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas vous faire la liste tout de suite, donc ne quittez pas l'antenne jusqu'à 20h. Et puis après, pour l'émission du laboratoire qui va nous suivre. Mais donc, je voulais quand même commencer cette émission. Alors, un petit commentaire personnel, quand on parle de droits humains, il y a de plus en plus de discours d'hommes politiques, de responsables ou d'autres, ou qu'on voit sur les réseaux sociaux en disant « Oui, les droits humains, c'est un peu un luxe d'occidentaux, hein, les droits de l'hommiste » ou ce genre de propos absolument délirants. Eh ben, un monde sans droits humains, c'est ce qui se passe à Gaza à l'heure actuelle, ou c'est ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle, ou c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup trop de pays dans le monde à l'heure actuelle, en Afghanistan, en Iran, etc. Et les gens qui considèrent que les droits humains sont un luxe dont on pourrait finalement bien se passer, eh bien, est-ce que ça leur fait envie, ce qui se passe, est-ce qu'ils auraient envie de vivre dans ces pays-là ? La question est posée. Et simplement, encore une fois, les droits humains, c'est de vivre intelligemment entre nous. Donc, c'est effectivement des notions et des valeurs à défendre, coûte que coûte, et malgré, effectivement, les remises en cause qui sont à la mode en ce moment. Voilà, fin de la parenthèse personnelle. Donc, au niveau de ce qui se passe à Gaza, donc, Amnesty International réclame un cessez-le-feu immédiat. Et voilà le communiqué qui a été écrit par notre organisation. Amnesty lance un appel urgent à un cessez-le-feu de toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza et en Israël afin d'éviter de nouvelles pertes de vie humaine au sein de la population civile et de permettre aux habitants de Gaza de recevoir une aide vitale sur fond de catastrophe humanitaire sans précédent. Au cours des 2 semaines et demie qui viennent de s'écouler, nous avons vu l'horreur se répandre à une échelle inimaginable en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Confrontés à une crise humanitaire catastrophique, plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza tentent de survivre et le nombre de victimes civiles est sans précédent. Plus de 6500 personnes ont été tuées à Gaza et au moins 1400 en Israël et des milliers d'autres ont été blessées. Plus de 200 personnes ont été prises en otage par le Hamas. Toutes les parties au conflit continuent sans relâche de commettre de graves violations du droit international humanitaire, dont des crimes de guerre. Face à cette dévastation et ces souffrances d'une ampleur inédite, l'humanité doit primer, a déclaré Agnès Callamard, qui est notre secrétaire générale internationale. Il est urgent d'agir pour protéger la population civile et éviter que la souffrance humaine n'atteigne des niveaux encore plus affolants. Nous appelons tous les membres de la communauté internationale à s'unir pour exiger un cessez-le-feu humanitaire immédiat de la part de toutes les parties en conflit. Amnesty se joint aux appels de la rapporteuse spéciale de la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, des organes des Nations Unies travaillant en Palestine et de nombreux experts des droits humains représentés par une longue liste de procédures spéciales de l'ONU qui réclament également un cessez-le-feu, de même que le secrétaire général des Nations Unies et le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il est urgent d'agir pour protéger la population civile et éviter que la souffrance humaine n'atteigne des niveaux encore plus affolants. Donc effectivement, c'est un peu une répétition, mais il faut effectivement répéter ce genre de choses. Et pour conclure, effectivement, Amnesty rappelle ce que l'organisation demande au niveau mondial. Les parties doivent mettre un terme aux attaques illégales, notamment aux attaques menées sans discrimination, aux attaques visant directement des civils ou des biens à caractère civil, et aux attaques disproportionnées. Israël doit permettre immédiatement l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza occupée, lever son blocus illégal de ce territoire qui dure depuis 16 ans et autoriser sans délai la commission internationale indépendante chargée d'enquêter dans le territoire palestinien occupé à se rendre sur place. La communauté internationale doit imposer un embargo général sur les armes à toutes les parties au conflit, compte tenu des graves violations constitutives de crimes de droit international qui sont commises. L'enquête en cours de la Cour pénale internationale sur la situation en Palestine doit recevoir un soutien total et tous les moyens nécessaires. Le Hamas et tous les groupes armés doivent libérer immédiatement et sans condition tous les otages civils et traiter humainement toutes les personnes qui sont retenues captives, notamment en leur fournissant des soins médicaux en attendant qu'elles soient libérées. Israël doit libérer tous les Palestiniens et Palestiniennes qui sont détenus arbitrairement. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment en démantelant le système d'apartheid imposé par Israël à tous les Palestiniens. Et donc, juste pour conclure ce communiqué, on vous demande effectivement, et si vous nous écoutez, faites-le, ça prend quelques secondes, de signer effectivement la pétition pour demander ce cessez-le-feu qui est en ligne sur le site d'Amnesty.fr, qui est le site d'Amnesty International France. Voilà. Donc c'était important de rappeler ça effectivement, et de rappeler que un monde sans droits humains, c'est, comme je disais au début, ça ressemble trop à ce qui se passe à Gaza à l'heure actuelle. Alors, on va changer de sujet, puisqu'on avait dit qu'on ne vous en parlerait qu'en introduction.
Enfin, on ne s'éloigne pas encore, pas trop des zones de conflit, mais justement,
tout à fait.
Je voulais vous... Il y avait une petite chronique qui était dans le magazine d'Amnesty, et je voulais vous parler justement de comment Amnesty International mène ses enquêtes. Donc, depuis 60 ans, Amnesty International documente et dénonce les violations des droits humains commises aux quatre coins du monde. Comment enquêtons-nous ? Comment expertisons-nous les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ? Sur quelle base juridique se base notre travail ? Et quelles sont les méthodes utilisées sur le terrain ou à distance ? Alors, établir les faits, c'est le travail d'Amnesty International. À l'heure de la désinformation, des images falsifiées, des vidéos décontextualisées, circulant massivement sur les réseaux sociaux, notre travail de recherche, indépendant et impartial, est d'autant plus essentiel. C'est donc dans ce contexte qu'interviennent toutes nos équipes de recherche sur le terrain ou à distance via le Crise Evidence Lab, notre laboratoire de preuves. Tous et toutes sont spécialisés sur des conflits ou des régions spécifiques. Tous et toutes partagent une même idée déontologie, recueillir, authentifier, expertiser. Dans nos rapports, nous établissons des faits en toute indépendance et en toute objectivité pour permettre d'établir des faits et d'alerter l'opinion publique, de faire pression sur les autorités pour que les violations des droits humains cessent, que les auteurs de crimes les plus graves rendent des comptes devant les juridictions compétentes, que les victimes obtiennent justice et réparation. Ainsi, les éléments de preuve expertisés par nos chercheurs et chercheuses et publiés dans nos rapports peuvent notamment être utilisés par la Cour pénale internationale. Alors, notre laboratoire de preuves, c'est le Crisis Evidence Lab, qui fait partie de notre programme Réaction aux crises. Donc, créé en 2013, notamment pour répondre à la profusion des images et des vidéos non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux, il regroupe une équipe d'une trentaine d'enquêteurs et enquêtrices. Cette équipe pluridisciplinaire, spécialiste des données visuelles en open source, des armements des données, développeurs, etc., donc, il recense à distance les violations des droits humains à l'aide d'outils d'investigation numérique de pointe. Via ces outils, ils vont notamment pouvoir authentifier et contextualiser une image ou une vidéo par la date et l'heure, le lieu de prise de vue, etc. Il contribue donc à garantir que les informations provenant des zones de conflit soient exactes. Alors, comment le Crisis Evident Lab vérifie-t-il les attaques ? Lorsqu'il est difficile et dangereux pour nos équipes de recherche de se rendre sur le terrain, le travail du Crisis Evident Lab est d'autant plus important. Donc, les éléments de preuve recueillis et analysés seront corroborés par des entretiens menés par nos équipes de recherche sur le terrain ou à distance, avec les témoins des attaques. Ce travail minutieux de vérification et de contextualisation des informations en open source vient s'ajouter aux preuves matérielles récoltées par nos chercheurs. Nos chercheurs sont déployés sur le terrain. C'est l'une des spécificités de notre organisation, c'est de produire ses propres enquêtes. Pour cela, des chercheuses et des chercheurs sont mobilisés dans toutes les régions du monde. De formation juridique, ils produisent des recherches exclusivement pour Amnesty International. Il y a 100 équipes de recherche, 70 rapports publiés chaque année, 150 pays sont couverts. Pour documenter les possibles violations des droits humains, nos chercheurs peuvent être envoyés sur le terrain ou mener leurs entretiens et recherches à distance lorsque la zone est impossible d'accès ou trop dangereuse. Chaque situation est différente, mais la méthodologie employée est toujours la même. Nos chercheurs, sur le terrain, mènent de nombreux entretiens avec des témoins, des survivants et des familles de victimes d'attaques, des personnes de la société civile comme des médecins ou des infirmiers. Et ces entretiens sont croisés avec l'analyse d'images satellitaires et tout le matériel disponible en open source, vidéos, photos, etc. Un travail essentiel pour reconstituer les faits et établir s'il y a lieu ou non violation du droit international humanitaire. Le but, c'est de comprendre comment l'attaque et les bombardements aériens se sont passés, qui sont les victimes, mais aussi et surtout de déterminer dans quelles circonstances se sont déroulées les frappes. Le droit international, c'est le cadre de nos enquêtes. Une fois que les informations ont été recueillies et analysées par nos équipes de l'Evidence Lab et nos chercheurs et chercheuses sur le terrain, il faut déterminer le type de violation dont il est question, toujours avec le prisme du droit international. Notre organisation a pour objectif de faire garantir le droit international sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ainsi que des traités et conventions internationales, comme la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. En plus d'alerter, nos rapports de recherche peuvent contribuer à ce qu'un jour les responsables des crimes internationaux soient traduits en justice. La documentation issue de l'Evidence Lab et de nos rapports de recherche a été utilisée par la Cour pénale internationale dans ses enquêtes. Donc, nos enquêtes récentes sur les conflits, et ben, par exemple Israël-Gaza, donc c'est une documentée la vague de violence depuis le 7 octobre. Donc, c'est un nouveau cycle de violence extrême qui a éclaté en Israël, à Gaza et en Cisjordanie. Depuis, nous enquêtons sur les violations des droits humains commises par toutes les parties au conflit. Nos enquêtes de l'Evidence Lab ont analysé des vidéos nous permettant de dénoncer des crimes de guerre commis par des groupes armés palestiniens dans le sud d'Israël et récolter des témoignages de rescapés de l'attaque au festival de musique de Nova. Nos équipes ont aussi vérifié des vidéos et des photos indiquant que l'armée israélienne qui frappe Gaza est équipée d'obus d'artillerie au phosphore blanc. Nos chercheurs, chercheuses ont indiqué que le siège total imposé à Gaza par Israël s'apparenterait à une sanction collective, ce qui pourrait constituer un crime de guerre. Nous avons enquêté sur des attaques israéliennes contre la bande de Gaza qui ont eu lieu entre le 7 et le 12 octobre en analysant des images satellites, vérifié des photos et vidéos et parlé avec des survivants. Nos enquêtes en Ukraine, donc la guerre de l'Ukraine, c'est aussi la traque aux crimes de guerre. Depuis le début du conflit, nous avons documenté plusieurs attaques aveugles et l'utilisation par les forces armées russes d'armes non discriminantes, comme des bombes à sous-munitions et dans des zones urbaines. Nous avons également documenté des exécutions extrajudiciaires, notamment à Boutcha, et des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, comme à Irpin, dans la banlieue de Kiev, ou à Mariupol. Il s'agit de violations graves du droit international humanitaire et de crimes de guerre. Et pour finir, parce que je ne veux pas les passer sous silence, parce qu'on n'en parle pas souvent de ces zones-là, c'est la guerre en Éthiopie, donc la mise en lumière d'un conflit oublié. Donc en 2021, nous avons enquêté sur le terrible conflit installé en Éthiopie en pointant des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Nos chercheurs ont notamment enquêté sur le massacre de centaines de civils dans la ville d'Askoun, commis par des soldats érythréens. Ils ont interrogé 41 témoins et survivants du massacre. Et nous avons aussi ainsi révélé que des combattants des armées éthiopiennes et érythréennes ont commis des viols et autres formes de violences sexuelles à l'encontre de centaines de femmes et de filles dans le Tigré. Des crimes de guerre qui doivent faire l'objet de poursuites. Et nos enquêtes au Soudan, crimes de guerre, la population face à l'horreur. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est déchiré par un terrible conflit. Nous avons enquêté sur la situation et publié un rapport intitulé « La mort a frappé à notre porte ». Nous avons interrogé 181 personnes pour ce rapport, essentiellement dans l'est du Tchad, en juin 2023, et à distance en utilisant des moyens de communication sécurisés. Nous avons également examiné de nombreux documents audiovisuels ainsi que des images satellitaires pour établir des faits et corroborer de possibles violations des droits humains. Que ce soit en Israël et dans les territoires palestiniens, en Ukraine ou en Éthiopie, les civils sont les premières victimes des conflits armés. Chaque jour, nous mettons en lumière les atrocités cachées de ces conflits. Si ensemble, nous ne révélons pas les crimes de guerre, qui le fera. Voilà.
Ben merci Clarlys pour ce rappel effectivement de la façon de travailler d'Amnesty et qui fait tout à fait suite à ce que j'ai dit en tout début d'émission. Et juste avant la pause musicale qui ne saurait tarder, si c'est pas trop long, je pense qu'Edith, non, on attend la pause.
On fait la pause musicale.
On fait la pause musicale. Voilà,
et puis on prend une respiration.
Voilà. Et puis
mais c'était très intéressant et c'est bien de partager comment travaille Amnesty.
On traitera le sujet dont tu voulais parler juste après. Donc la première pause musicale. Et on se retrouve juste après.
Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face, au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous, sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette, ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête, et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression. On s'en fout, papa, qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos. Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les bifetons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare, car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent.
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes.
Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants en avance sur leur temps.
Voilà, de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. On vient d'écouter Grand Corps Malade, une chanson qui s'appelle Roméo kiffe Juliette. Et je pense que par rapport à l'actualité du moment et à ce qu'on vous a dit en début d'émission, vous aurez facilement fait le lien. Voilà, et sans transition, c'est Edith qui va prendre la suite de l'émission.
Eh bien oui, parce que moi j'avais juste un petit article, mais j'ai trouvé que votre duo était très, très bien fait par rapport à la situation Israël-Palestine. Donc là, moi, c'est un petit peu plutôt des petites informations. Alors petites, pas du tout par le contenu, mais petites par la durée. Hein. Je vais aller être plus rapide.
Fais des flashs.
C'est un petit melting pot du monde, quoi, avec les États, avec des fois des améliorations, des fois des choses compliquées. Donc là, je vais aller au Japon. Donc au Japon, bah, quand tout ce qui est droit LGBT, quand on est transgenre, c'est bien, bien compliqué. Alors je vous explique ce qui se passe tout de suite. Au Japon, une loi spéciale sur les troubles de l'identité de genre précise les conditions pour changer officiellement de genre d'une personne à l'état civil. Actuellement, lorsqu'une personne a un diagnostic de trouble de l'identité de genre établi par plusieurs médecins et qu'il dépose une requête auprès du tribunal des affaires familiales, cette personne peut obtenir la reconnaissance juridique de son changement de sexe si elle remplit 5 conditions suivantes au moment de la demande. Avoir au moins 18 ans, ne pas être marié, ne pas avoir d'enfant mineur, de ne pas avoir de fonction reproductive, et avoir les organes génitaux dont l'apparence est similaire à celle du sexe après le changement. Alors là, il y a quelque chose qui s'est quand même passé, parce que quand on voit une voie loi comme ça, aussi archaïque et aussi, je ne sais même pas comment la juger, enfin très compliquée et complètement discriminatoire par rapport aux personnes transgenres. Donc le 25 octobre dernier, dans une affaire relevant du droit de la famille, la Cour suprême du Japon a rendu un arrêt déclarant anticonstitutionnelles les dispositions de la loi spéciale sur les troubles de l'identité dont je viens vous parler, qui exige une stérilisation chirurgicale pour changer de sexe juridiquement. Et elle a appuyé cette décision sur la constatation du fait que l'obligation de stérilisation était contraire à un article de la Constitution japonaise qui souligne l'importance du respect des droits individuels. Alors, c'est une décision historique pour le droit des personnes transgenres au Japon et un nouveau signe que les pays de la région réévaluent les pratiques et les lois discriminatoires à l'encontre des personnes LGBT. L'arrêt de la Cour suprême constitue une avancée importante dans la lutte pour les droits des LGBTI au Japon, mais cela reste quand même un dur combat, a déclaré Boram Jung, la chercheuse pour Amnesty en Asie du Sud-Est. Et Amnesty continue à demander aux autorités japonaises de prendre des mesures nécessaires pour la reconnaissance du genre à l'état civil ne soient pas soumises à la condition d'un diagnostic psychiatrique. Bah, tiens, ça rappelle la France il y a quand même combien d'années, on va dire, hein, 1970-80,
oui, je pense, 80, hein, voilà. Ça a été supprimé par sous le premier gouvernement Mitterrand, je crois, effectivement, les diagnostics
et effectivement, les soins médicaux, l'intervention chirurgicale. Donc, on va rester vigilant, mais on va dire que c'est quand même une amélioration. Voilà, eh bien, je crois que je vais continuer toute seule.
Non, tu ne continues pas toute seule, mais je crois que tu avais d'autres pays, d'autres infos sur d'autres pays.
Là, c'est plutôt sur un versant défenseur des populations autochtones et défenseur des droits au niveau de la terre, au niveau des territoires. Donc, au Canada, actuellement, il y a une série de procès pour une, la nation, alors là, la prononciation n'est absolument pas garantie, c'est Wet'suwet'en, qui sont engagés dans la défense de leur terre. Donc, je vous explique ce qui se passe dans cette nation au Canada. Donc, c'est en Colombie-Britannique, je crois. Donc, la nation Wet'suwet'en n'a pas consenti à la construction d'un gazoduc de l'entreprise Coastal GasLink. Les défenseurs et les défenseuses des terres Wet'suwet'en et leurs sympathisants œuvrent pour la production du la protection du territoire ancestral des cours d'eau de la nation autochtone face aux travaux de construction du gazoduc. Donc, en novembre 2021, il y a eu une arrestation de dizaines de défenseurs qui s'opposaient à ce gazoduc. Et ces personnes ont été poursuivies pour outrage criminel en raison d'une prétendue violation des termes de leur injonction. Et plusieurs d'entre elles vont être jugées, donc sont jugées là à partir du 30 octobre, donc hier. Bon, là, j'avoue que je n'ai pas l'info sur le contenu, le jugement, mais je pense que ça va durer plusieurs jours. Donc, ce que dit Amnesty, c'est que ces populations œuvrent pacifiquement pour la défense de leurs terres et ne devraient pas être poursuivies en justice, car elles ont uniquement exercé leurs droits. Alors, on appelle la procureure générale de la Colombie-Britannique à abandonner immédiatement les charges retenues contre ces défenseurs des terres et leurs sympathisants. La poursuite des travaux de construction de ce gazoduc sans le consentement préalable libre et éclairé de la nation Wet'suwet'en constitue une violation de son droit et de décision concernant tout projet de développement économique envisagé sur les terres traditionnelles, tel qu'énoncé par plusieurs instruments internationaux, notamment la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Donc, on va suivre aussi cette affaire parce que le Canada, il y a pas mal de populations autochtones et il y a très, très souvent des conflits avec oui. l'eau, avec la terre. Et c'est assez, on va dire, soucieux
oui,
pour un pays qui se veut quand même démocratique.
Ben, ce sont des remises en cause des droits des populations qui étaient là avant l'arrivée des colons européens et autres. Et effectivement, et ça se passe, c'est loin de se passer toujours bien, effectivement, même si c'est pas quelque chose qui fait la une de l'actualité très souvent, mais Amnesty est très vigilante par rapport à ses droits.
Voilà, tout un travail sur une rivière qui avait des métaux dedans par rapport à des mines, je me rappelle, oui. il n'y a pas très très oui. longtemps, oui. ça aussi. Donc pareil, pour défendre les défenseurs de la terre, du territoire et de l'environnement, bah c'est le Mexique. C'est un pays où c'est très, très compliqué. Et là, Clarlys, tu as parlé de rapport tout à l'heure, donc le travail d'Amnesty. Donc, en septembre, il y a un rapport qui est sorti par rapport à cette situation des défenseurs au Mexique. Alors, je vais vous le dire avec ma traduction, parce que moi, l'espagnol, c'est pas mon truc. Donc, c'est terre, Mexique, terre ou liberté. Criminalisation des personnes qui défendent la terre, les territoires. Alors, il y a un mot que je ne connais pas, c'est « ambiente ». Je pense que c'est à peu près l'environnement, mais vous n'êtes pas sûr, c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà.
Je ne peux pas dire, je ne parle pas espagnol.
Personne. J'ai demandé, j'ai fait une enquête, personne n'est hispanophone ici, donc je ne pourrais pas dire. Si quelqu'un le connaît, on vite un petit message et on saura. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que c'est un autre système, ce n'est pas le même que le Canada. C'est le recours disproportionné au système pénal contre les manifestants. Ça s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à décourager et à démanteler la défense des droits de la terre, du territoire et de l'environnement. Alors, il est alarmant de voir que le Mexique figure parmi le pays où le nombre d'assassinats de défenseurs de l'environnement est le plus élevé. Tandis que l'État se garde bien de lutter contre cette violence ou de la prévenir, et que d'autres violations graves des droits fondamentaux, telles que la stigmatisation, le harcèlement, des agressions, des déplacements forcés et des disparitions viennent s'y ajouter. Voilà ce qui se passe tout de suite au Mexique. Alors, dans ce rapport, on parle de situations qui se passent dans l'état du Chiapas, dans l'état de Pueblo, encore du Chiapas ou du Yucatan. Et à chaque fois, c'est des problématiques ou de construction ou de non-respect de l'eau ou aussi des activités de ferme qui vont polluer alors qu'il n'y a absolument rien de calculé derrière et des problèmes de santé. Donc ce rapport aussi, il démontre un peu comment fonctionne le Mexique. C'est-à-dire qu'ils essayent de récupérer, de mettre en justice des personnes qui sont les chefs un petit peu de ces mouvements de défense. Ils font durer très très longtemps la problématique judiciaire en pouvant à tout moment reprendre la problématique judiciaire. Donc les gens n'ont plus de vie tranquille et effectivement ça fait que les autres personnes sont dissuadées de venir elles aussi défendre les mêmes causes, car elles craignent aussi que elles craignent aussi bien la réprobation sociale que des répressions et que des menaces contre leur vie, puisque on vous a dit que c'était l'endroit où les défenseurs pouvaient mourir, tout simplement, quoi. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus insidieux, mais c'est tout à fait valable, parce que pendant ce temps-là, le Mexique, il fait rien. Il garde des gens qui sont des défenseurs des droits, un peu comme des marionnettes. Là, il y a les fils, on peut les bouger à n'importe quel moment, et donc on les empêche de vivre réellement. Et pendant ce temps-là, eh bien, ils font absolument rien pour les causes profondes des problèmes, pour les difficultés auxquelles sont confrontés les défenseurs de la terre, mais aussi pour l'environnement. C'est-à-dire que les grosses entreprises ont toujours beaucoup plus la chance, on va dire, ou la malchance de s'en sortir, que les défenseurs des droits. Donc il faut aussi, dans ces pays-là, être très vigilant et être défenseur des droits, c'est très courageux.
Oui, on rappelle effectivement qu'il y a, je n'ai pas le chiffre en tête, mais qu'il y a plusieurs centaines de défenseurs des droits de tous ordres qui sont tués par an à l'heure actuelle dans le monde. Ça, effectivement, ça ne fait pas non plus la une de l'actualité, mais c'est la réalité.
Il y en a le plus.
Le Mexique, effectivement, est particulièrement en pointe. Et ce que tu viens de dire par rapport à la différence de respect des droits selon qu'on est un défenseur des droits ou qu'on est représentant d'une multinationale, c'est pas très différent de ce qui se passe en France, toute échelle gardée, mais effectivement, il y a toujours deux discours et deux prises en compte des intérêts des uns et des autres.
Voilà. Mais là, en plus, le travail sur l'environnement est vraiment aussi minimum, quoi.
Oui. Je crois que
Claire-Lise, je pense que tu me faisais une petite réponse, mais peut-être plus positive.
Je crois que tu voulais parler, toi aussi, de défenseur des droits, mais sous un autre aspect.
C'est ça. En fait, je vais vous parler de l'art pour célébrer le courage des défenseurs des droits humains. Donc, dans le 12e arrondissement de Paris, un mur est désormais consacré à la défense des droits humains. La fresque, réalisée par le street artiste marseillais Man Cloax, j'espère que je l'ai bien prononcé, célèbre à travers 6 portraits le courage des défenseurs des droits humains qui se battent chaque jour à travers le monde pour nos droits fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a?
Je dis, c'est ce que je viens... Voilà,
c'est
voilà.
Ça.
Tu me réponds de façon positive.
C'est un long mur de 20 mètres de long sur 5 mètres de haut sur lequel 6 portraits éclatent comme des cris. Quelques minces traits de blanc tranche sur un mur sombre et des visages soutenus ou contraints par des mains amicales ou hostiles. L'une ajuste un voile sur la tête de l'avocate Nasrim Sotoubde. L'autre est posée sur l'épaule du docteur Mudouégué. D'autres encore cachent les yeux, obstruent une bouche, soutiennent un visage, un cou. Des mains comme des signes de solidarité ou d'oppression envers les courageux ou courageuses défenseurs, défenseuses des droits humains que célèbre ce mur. Le premier dédié aux droits humains de la capitale. Un espace symbolique mis à disposition par la mairie de Paris pour célébrer les libertés, promouvoir les droits fondamentaux et lutter contre toutes les discriminations. Alors, avant de continuer sur ce que je voulais vous dire, je vais quand même vous dire... Donc, ça a été inauguré le jeudi 21 septembre.
On a envie d'y aller.
Et hein. C'est à Paris. Et j'avais l'adresse tout à l'heure.
Tu vas la retrouver. Tu vas
je vais
la
vous
retrouver.
La retrouver.
Donc, on va aller se faire photographier devant.
Je vais juste vous parler des 6 portraits qui sont... Alors, je ne vais peut-être pas tout vous détailler. Donc, la première, c'est Nasrim Sotoudeh, figure iranienne de la défense des droits humains. Donc, éminente avocate, Nasrin Soutadeh est devenue une figure emblématique de la défense des droits humains en Iran, connue pour son combat de longue haleine contre la peine de mort. Elle s'est également distinguée ces dernières années pour avoir défendu des femmes qui défient les lois discriminantes imposant le port obligatoire du voile dans son pays. En raison de son travail de défense des droits humains, qui dure depuis plus de 10 ans, elle est persécutée par les autorités iraniennes. En 2012, elle a reçu le prix Sakharov du Parlement européen. En 2019, elle a été condamnée à 148 coups de fouet et 38 ans de prison. Elle est actuellement toujours détenue dans la prison d'Evin à Téhéran et continue de risquer sa vie pour défendre celle des autres. Le deuxième portrait, c'est celui du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Donc, prix Nobel de la paix en 2018, le docteur Mukwege est internationalement.
Tout le monde le connaît.
Il est connu au niveau international.
C'est ça.
Comme l'homme qui répare les femmes. Donc, durant les 20 années de conflit qui ont secoué l'Est de la République démocratique du Congo, des milliers de femmes ont été violées. Je ne voudrais pas dire, mais ça continue encore.
Oui.
Face à ces atrocités, le docteur Mukwege mène une lutte incessante. Son combat, c'est opérer ces femmes dont les corps ont été mutilés et dénoncer l'impunité dont jouissent les coupables. Grâce à ses soins et à sa compassion, des milliers de victimes de viols et d'autres violences sexuelles ont pu surmonter leurs blessures physiques. Malgré une tentative d'attentat et des menaces de mort et des attaques visant sa famille, ce médecin au courage exceptionnel continue de mener campagne contre les violences sexuelles commises lors de conflits. S'il voyage dans le monde entier pour partager son témoignage, il vit dorénavant cloîtré dans son pays, dans l'hôpital de Bukavu, où il exerce sous protection des casques bleus de la mission des Nations Unies. Mais il n'est plus seul à lutter. Des femmes, dont il a restitué l'intégrité physique et aidé à recouvrer la dignité, se battent désormais à ses côtés. Et ensuite, il y a un troisième portrait, c'est celui de Chelsea Manning, lanceuse d'alerte de l'armée américaine. Donc Chelsea Manning était membre de l'armée américaine. Elle travaillait comme analyste du renseignement militaire lorsque, témoin de violation des droits humains, elle a décidé de faire fuiter des milliers, 700 000, documents confidentiels de l'armée qui pointaient de possibles crimes de guerre commis par l'armée américaine, notamment en Irak et en Afghanistan. Pour cet acte courageux, elle a été arrêtée en juin 2010, puis placée en détention. En 2013, elle a été jugée par une cour martiale des États-Unis, condamnée à 35 ans de prison. Après 7 ans de prison, l'ex-informatrice de Wikileaks a finalement été libérée en mai 2017, avant d'être de nouveau incarcérée en mars 2019. La raison, c'est qu'elle refusait de témoigner à propos de Julian Assange devant le grand jury. Et le 11 mars 2020, à 2 jours d'une audience qui devait statuer sur son refus, elle a de nouveau fait une tentative de suicide en prison. Donc un juge a finalement ordonné sa libération le lendemain. La quatrième portrait de ce mur, c'est Malala Yousafzai.
Malala, tout le monde la connaît avec Malala.
Inouï face aux talibans. Donc Malala incarne le combat de millions d'enfants et de filles, celui du droit à l'éducation. Alors qu'elle n'avait que 11 ans, la jeune Malala commence à écrire un blog sous le pseudonyme de Gul Makai pour la BBC. Elle raconte de son point de vue de petite fille la vie quotidienne sous la domination des talibans au Pakistan. En octobre 2012, les talibans attaquent son car scolaire et lui tirent une balle dans la tête. Cet attentat suscite une vague d'indignation internationale. Grièvement blessée, elle est transférée au Royaume-Uni pour y être soignée. Malala est un exemple de courage inouï. En 2013, elle reçoit la plus haute distinction accordée par Amnesty International, le prix ambassadeur de conscience. En 2014, à seulement 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la paix. C'est la plus jeune lauréate dans l'histoire de ce prix. Malala est aujourd'hui encore réfugiée au Royaume-Uni et poursuit son combat pour l'éducation des enfants à travers le monde. Le cinquième portrait, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup plus souvent, qui est connu, mais c'est aussi une jeune fille, c'est Greta Thunberg, Fridays for Future.
Future.
Donc, en 2018. Moi, je fais de l'anglais avec les Nigériens. Excuse-moi.
Hein. Non, non, mais...
En 2018, le Monde entend parler de Greta Thunberg pour la première fois. Une adolescente suédoise qui a décidé de sécher l'école chaque vendredi pour protester devant le Parlement suédois jusqu'à ce qu'il prenne des mesures fortes pour lutter contre le dérèglement climatique. Devant son initiative qui vise à sensibiliser à la crise climatique, s'est répondu... son initiative s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Avec elle, des milliers de jeunes du monde entier ont pris part aux journées de grève scolaire Fridays for Future. Des manifestations, je le vois qui rigole. Des
manifestations il a trouvé ça bien.
ont eu lieu dans plus de 100 pays, notamment en Australie, au Brésil, en Inde, au Nigeria, au Pakistan, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, aux Philippines et en Ouganda. Pas beaucoup en France. Agir selon sa conscience, c'est se battre pour ce que vous croyez juste. À plusieurs reprises, son activisme lui vaut d'être arrêté. En Allemagne, lors d'une manifestation anti-charbon, en Norvège, lors d'une manifestation avec le peuple autochtone, et pour la démolition d'éoliennes déclarée illégale. Voilà. Et en 2019, la militante pour le changement climatique a reçu le prix Ambassadeur de conscience 2019, aussi décerné par Amnesty International à des personnes qui ont fait preuve d'un leadership et d'un courage exceptionnel pour défendre les droits humains. Le sixième portrait, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est quelqu'un dont on parle beaucoup moins maintenant, mais qui est quand même connu, c'est Angela Davis, icône des mouvements féministes et antiracistes. Donc, elle était née aux États-Unis en 1944 à Birmingham, dans l'État de l'Alabama, dans une famille afro-américaine. Donc, elle a fait très tôt l'expérience du racisme, du système de ségrégation raciale. Et avec ses parents, elle découvre l'horreur de l'esclavage qui a marqué sa famille. Donc, elle découvre l'horreur du Ku Klux Klan et très tôt, sa conscience politique se forge. Très vite, son destin se dessine. Elle deviendra une figure du féminisme et de l'antiracisme. Donc, les combats de sa vie sont multiples. Je ne vais pas tout reprendre, mais contre le système carcéral, la brutalité policière, la peine de mort et toutes les formes d'oppression. Icône du Black Power, elle devient militante aussi pour la cause des femmes. Elle a été emprisonnée et jetée en prison en 1970. Et il y a eu un mouvement, un comité de soutien, Free Angela Davis, voilà, qui a vu le jour et qui, de nombreuses personnalités, lui ont manifesté son soutien. Elle sera finalement relâchée en 1972, libre de tout chef d'accusation. Donc elle s'est aussi particulièrement battue pour les femmes noires, et pour elles, le féminisme est lié de manière intrinsèque au racisme, et certaines personnes se trouvent à la croisée des oppressions. La femme noire doit ainsi lutter simultanément contre le sexisme et contre le racisme. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. Voilà. Alors, j'ai retrouvé l'artiste qui s'appelle donc Man Kloa, ou Quax, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et le mur, eh ben, c'est le mur des droits humains, 30 rue du Sahel, dans le 12e arrondissement à Paris. Voilà. Donc si vous allez vous balader à Paris,
il faut aller voir cette fresque, effectivement.
Vous prenez en photo, vous nous l'envoyez sur le site d'Amnesty.
Voilà.
On va passer à la seconde pause musicale. On est déjà en retard, comme d'habitude. À la seconde
on ne peut pas être en retard, vu que les gens ne savent pas ce qu'on va dire.
Non, mais nous, on sait par rapport
c'est
au planning.
C'est toujours la surprise.
Au planning, au conducteur qu'on avait établi. On est un petit peu en retard.
Voilà.
Deuxième pause musicale et on se retrouve juste après. 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Voilà, on vient d'écouter John Lennon, une chanson qui n'est pas d'hier, mais qui est tout à fait de circonstance.
Il y en a des mieux de John Lennon.
Il dit tout le temps la même chose, c'est bête quand même.
Give peace a chance, c'est bien de le répéter. Give peace and chance. Donner une chance à la paix dans les circonstances présentes, je pense que c'est fondamental. Donnons une chance à la paix. On vous renvoie à ce qu'on a dit au début de l'émission et d'aller signer la pétition pour un cessez-le-feu à Gaza.
Voilà. Et ce qu'on veut, c'est des bonnes nouvelles.
Moi, effectivement, j'ai préparé quelques bonnes nouvelles là, qui sont importantes aussi à savoir, surtout dans cette ambiance morose dans laquelle on vit actuellement. Donc voilà ce que dit Amnesty. Noyé dans l'actualité de ces dernières semaines, vous n'avez peut-être pas vu passer ces bonnes nouvelles. Libération individuelle ou combat collectif, ces victoires sont le fruit d'une mobilisation internationale à laquelle nos militants et militantes ont participé et elles nous redonnent de l'espoir. Alors, première bonne nouvelle, le journaliste Mortaza Bebboudi est libre. Détenu depuis le 16 janvier 2023, Mortaza Bebboudi a été libéré le 18 octobre. Après plus de 9 mois de détention en Afghanistan, ce journaliste franco-afghan de 29 ans va pouvoir retrouver ses proches. Il était accusé d'espionnage par les talibans qui, depuis leur retour au pouvoir en août 2021, n'ont cessé de réduire drastiquement les droits fondamentaux de la population. Le régime mène notamment une véritable guerre contre les femmes et les filles et a réduit à néant les progrès accomplis en faveur de leurs droits ces dernières années. On a déjà parlé de la situation en Afghanistan, on y reviendra, mais on a déjà informé sur cette catastrophe qui est appliquée aux droits des femmes en Afghanistan. Et petite parenthèse, j'ai entendu, moi tout à fait par hasard, il y a quelques jours, Mortaza Bebboudi interviewé dans une émission d'information à la télévision. Et effectivement, il était à Paris, il était très content d'avoir retrouvé sa famille et il a remercié tous les gens qui ont participé aux actions pour sa libération. Voilà. Deuxième bonne nouvelle, la chercheuse Fariba Abdelka est libre. L'universitaire franco-iranienne détenue depuis juin 2019 en Iran a été libérée et a pu rentrer en France le 18 octobre. Elle avait été condamnée à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, accusation qu'elle a toujours niée. « Désormais, tout cela est derrière moi », dit-elle. « Ce qui reste, ce sont tous ces gestes d'amitié et d'engagement, ces mobilisations de connus et d'inconnus. » Cette bonne nouvelle ne nous a pas fait oublier la brutalité du régime iranien, ni la série de crimes qu'il a commis notamment depuis le début du soulèvement « Femme, vie, liberté ». Ça aussi, dans une émission très récente, Claire-Lise avait eu l'occasion de beaucoup développer ce qui se passait en Iran. Nous réaffirmons notre soutien à toutes les femmes qui s'opposent courageusement à l'oppression dans le pays et qui se battent, parfois au péril de leur vie, pour la liberté et pour les droits des femmes. Et enfin, une dernière bonne nouvelle, on vous en avait parlé un petit peu à la dernière émission, mais ça fait toujours plaisir de la répéter. Dépénalisation de l'avortement au Mexique. Jusqu'alors, il incombait à chaque État de dépénaliser ou non l'avortement au Mexique. Le 7 septembre 2023, la Cour suprême mexicaine a tranché en déclarant inconstitutionnelle la pénalisation de l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral. Donc le Mexique a pris la décision exactement inverse des États-Unis de l'année dernière. Voilà. Donc on jouait...
Une petite action.
Oui,
parce que là, Claire-Lise, elle a... Hop, une super nouvelle.
Bon, bah vas-y,
de
alors Claire-Lise.
Travail, mais c'est pas une super nouvelle.
Une
nouvelle de travail.
On bouscule l'ordre du jour de l'émission.
Voilà,
mais c'est
parce
pas grave.
Que moi j'allais parler effectivement de la situation. Alors je vous en avais déjà parlé la dernière fois. En Arabie Saoudite, où c'est un pays où la peine de mort, ça tombe tout le temps. C'est vraiment terrible. Et là, c'est confirmation d'une peine de mort, de condamnation à mort qui ont été faites en secret. De deux jeunes gens qui sont mineurs au moment des faits qui leur sont reprochés. Et cela, ça a été fait en secret. Il n'y a pas d'information des familles, pas d'information des avocats. Alors, les deux jeunes gens, c'est Abdullah Al-Darassi et Jalal Labal, qui ont été déclarés coupables d'infractions liées au terrorisme en raison de leur participation à des manifestations antigouvernementales à l'issue de procès manifestement inéquitables et qui sont principalement appuyés sur des aveux obtenu sous la torture. Et Claire-Lise, là, tu viens de recevoir...
Alors, parce que je fais partie de la commission enfants d'Amnesty International, et donc il y a une action, il y a une lettre, donc il y a... Si vous allez sur le site d'Amnesty, et sur le site des... Il y a ce qu'on appelle les actions...
Urgentes. On en reparlera, je pense, d'ailleurs.
Il y a un texte qui est en français, il y a un texte en anglais, donc d'une lettre adressée au roi d'Arabie Saoudite, pour effectivement lui demander de sursauter soir, parce que c'est lui qui peut ratifier leur condamnation à mort. Donc il faut lui écrire, pour il risque d'être exécuté de manière imminente, et donc il faut vraiment se dépêcher d'envoyer ses courriers au roi d'Arabie Saoudite pour essayer de lui demander de ne pas ratifier cette condamnation à mort. Donc ces deux jeunes, Abdullah al-Derazi et Jalal Labad, ils étaient mineurs au moment des faits, donc maintenant ce sont des jeunes majeurs, et donc c'est effectivement un procès qui a eu lieu de façon inéquitable, et la condamnation à mort, ils n'ont pas informé les familles ni les avocats. Donc ça s'est fait dans le plus grand secret. Donc si vous voulez intervenir pour ces deux jeunes, eh ben, rendez-vous sur le site d'Amnesty pour envoyer un courrier de toute urgence.
Voilà, donc on rappelle que le site d'Amnesty International France, c'est www.amnesty avec un Y à la fin.fr, et vous rentrez dans la rubrique Action urgente et vous trouverez cette action. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez aussi nous la demander, hein, vous envoyez vos coordonnées par mail à evreux@amnestyfrance, tout attaché, amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr, et on vous enverra effectivement cette action. C'est très simple, mais c'est fondamental. On rappelle que c'est ce genre d'action qui a permis, entre autres, la libération des journalistes et autres dont je viens de vous parler. C'est en faisant ça, effectivement, que les gens sortent de prison. Oui, la pendule tourne, il y a Claire Lise qui me montre la pendule. Donc, on a quelques infos locales. Elle dit, tu voulais redire
Non, c'est voilà. Bon, c'était ça. Simplement dire qu'en plus, l'Arabie Saoudite avait ratifié le fait qu'on ne pouvait pas condamner des personnes mineures, mais ça ne gêne pas. On peut aussi les condamner.
Mais on les condamne en secret.
Non, voilà, on ne le rappelle, dit pas, mais ça c'est maintenant. Et ça, c'est bien aussi.
La remarque d'Edith est très judicieuse. Effectivement, on rappelle que le droit international interdit la condamnation à mort de gens qui étaient mineurs au moment des faits, qui leur sont des délits qui leur sont reprochés. Que ces délits soient réels ou non, de toute façon, le droit international interdit leur condamnation à mort s'ils étaient mineurs. Voilà.
Moi,
je voulais vous parler d'un article, mais je referai la prochaine fois parce que l'article m'a beaucoup plu. Je vous donne juste le titre en espérant comme ça vous aura envie d'écouter notre prochaine émission. Ça s'appelle Mamie fait de la résistance. Ça se passe en Suisse et c'est aussi une bonne nouvelle, mais je ne vous en dis pas plus.
Et c'est le papy d'Amnesty qui vous le présentera la prochaine fois.
Didier, il aura priorité la prochaine fois pour son article. C'est comme ça que ça passe dans notre équipe.
Donc, info locale, on a quelques infos. Donc, notre prochaine émission, justement, on vous en parlait, une prochaine émission sur les droits humains, ce sera le mardi 14 novembre au prochain, 19h à 20h sur l'antenne de Principe Actif, donc dans 15 jours. On vous avait parlé aussi d'une émission Fréquence Droits Humains qu'on devait faire jeudi, pour des raisons d'impossibilité de différentes personnes qui sur le handicap.
Elle est un petit peu reculée.
Voilà, pour des raisons d'impossibilité de plusieurs invités qui finalement ne pouvaient pas venir, on a décidé de la reporter à une date ultérieure. Donc cette émission Fréquence Droits Humains aura bien lieu, mais un peu plus tard, on vous le dira sur l'antenne de Principe Actif. Voilà. Et on vous indique aussi qu'on est partenaire d'un spectacle le jeudi 9 novembre qui a lieu au théâtre. Et qui est programmé par le Tangramme et qui s'appelle Au loin les oiseaux. Et voilà le thème, qui parle en fait de la violence faite aux femmes à travers le procès de quelqu'un dont on a pas mal parlé dans les médias il y a quelques années, le procès de Jacqueline Sauvage, qui avait été condamnée par la justice, qui était elle-même victime de violences conjugales à répétition et qui avait fini effectivement par tuer son époux et qui a été condamnée dans un premier temps par la justice et finalement graciée par le président de la République de l'époque. Donc c'est une émission sur ce thème-là qui traite de la violence faite aux femmes, mais qui traite aussi, c'est aussi une réflexion sur la façon dont travaille la justice. Voilà. Donc ça, c'est notre actualité locale du moment. Et on se retrouve donc, nous, le
14
novembre sur l'antenne de Principe Actif. Et on vous dit bonsoir.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.